affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science et plus précisément à l'histoire de la science. Nous allons, au fil de cette balade historique, car nous recevons aujourd'hui un historien des sciences, nous allons évaluer les rapports entre la science et les institutions publiques, les sciences et la politique, mais aussi plus largement la science et la société, la façon dont les gens l'envisageaient, dont ils l'envisagent aujourd'hui, ce qu'ils en attendent, la façon de l'orienter, la contrôler, mais aussi lui laisser la part de liberté nécessaire à son épanouissement. Et pour ce faire, nous avons la chance et l'honneur de recevoir dans notre studio Robert Halleux. Robert Halleux qui a fait le trajet de Belgique, puisqu'il dirige à l'Université de Liège le Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques. Il est membre étranger de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres et, dans son pays, de la section Technologie et Société de l'Académie Royale de Belgique. Et surtout, il l'a signé il y a quelques mois maintenant, je crois, un livre titré « Tant qu'il y aura des chercheurs » et sous-titré de façon plus académique « Science et politique en Belgique de 1772 à 2015 ». 1772-2015, vous voyez, notre promenade va nous permettre de traverser les siècles et de pouvoir imaginer les inflexions qui ont été ceux des rapports entre la société et la science. Mais surtout, peut-être faut-il préciser que ce livre n'est pas un livre, comme l'auteur nous le disait en préparant cette émission, un livre belgo-belge. Il n'est même pas un livre qui se penche simplement dans les spécificités de la Belgique, ou plutôt à travers les spécificités de la Belgique. Il nous permet d'embrasser des grandes questions qui concernent l'Europe et l'humanité entière. Est-ce bien cela ? Ai-je bien compris ?
Est-ce bien cela ? On pourrait peut-être ajouter une chose, c'est que si le sous-titre est académique, la jaquette ne l'est pas du tout, puisqu'elle montre une caricature de Lavoisier montant la guillotine, ce qui signifie qu'on parle aussi de la science d'aujourd'hui et des dangers qui la menacent et de ses rapports avec la société. Ce n'est pas un livre belgo-belge, ce n'est pas un livre d'histoire locale. C'est un livre qui étudie, à travers le cas d'un petit pays, c'est-à-dire d'un cas limité, les rapports entre science et politique, depuis le siècle des Lumières jusqu'au XXIe siècle. Et donc, pourquoi la Belgique ? Eh bien, parce que la Belgique est un microcosme, c'est un cas privilégié, puisqu'elle est située entre la France et le monde germanique, et que donc elle a été un carrefour d'influence.
Et même entre proche du monde anglo-saxon.
Et proche du monde anglo-saxon qui a présidé à sa création. Et donc toutes les grandes mutations de la science et de la politique ont laissé leurs traces en Belgique depuis la création de l'Académie impériale et royale par Marie-Thérèse d'Autriche en 1772, jusqu'à l'intégration dans l'espace européen de la recherche, donc European Research Area, n'est-ce pas, dans les dernières années. Donc il ne s'agit pas de la Belgique, mais il s'agit d'une recherche qui se déploie dans un espace à géométrie variable.
La Belgique est en quelque sorte une sorte de laboratoire des grands mouvements qui ont traversé l'histoire scientifique de l'Europe et du monde.
Absolument. Absolument. Elle a reçu, elle a donné. Et toutes ces influences ont marqué un paysage et se sont superposées au fil du temps. Vous savez, comme les rides sur un visage. Et il reste, tout ce qui remonte à la première période subsiste encore aujourd'hui. Il en reste encore des traces. Je dirais volontiers que la Belgique est un palimpseste. Un palimpseste, c'est un manuscrit qu'on a gratté pour réécrire un autre texte. Mais on peut lire avec une bonne lampe, on peut lire les anciens tracés, et c'est le but de cet ouvrage.
Alors justement, descendons dans les sédiments qui sont déposés sur cette petite Belgique pour voir que si elle n'est pas vaste, elle est profonde, et venons-en aux origines de cet engouement pour la science. Votre ouvrage démarre par un chapitre qui parlera non seulement à nos autorités de tutelle, mais aussi à nos auditeurs, puisqu'il est titré « Le temps des académies ».
Oui, Tout commence, il faudrait d'abord définir ce que c'est, au commencement, que la notion de politique scientifique. En réalité, c'est une rencontre entre la science issue de la révolution scientifique et qui est devenue applicable, enfin, celle d'Aristote n'était pas vraiment applicable, et d'autre part, un pouvoir qui a besoin d'appuyer ses grands projets et ses grands desseins sur la science pour leur donner une base plus certaine. Les savants ont besoin du pouvoir pour réaliser des expériences ou des expéditions de plus en plus coûteuses et des appareillages de plus en plus grands, l'Observatoire de Paris par exemple. Et d'autre part, eh bien, le pouvoir a besoin des savants pour perfectionner les techniques militaires, pour accroître la prospérité publique par les arts et les manufactures, pour augmenter la capacité contributive des citoyens en leur donnant une bonne santé, c'est les trois grands secteurs, n'est-ce pas, de la politique, pour définir son propre périmètre par la géographie. Et c'est à la naissance des deux, au croisement des deux, que se situent les académies, l'Académie des sciences, dont on fête maintenant le 350e anniversaire, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est d'abord un bureau d'études, surtout après sa réforme de 1699. C'est un bureau d'études qui travaille au service du pouvoir. On fait bien sûr de la recherche qui, en théorie, ne sert à rien, mais on fait surtout de la recherche utile au pouvoir, comme par exemple l'astronomie et l'Observatoire de Paris. Ce n'est pas fait seulement pour contempler les astres, c'est pour résoudre le problème stratégique majeur qui est le calcul des longitudes en mer. On sait que si l'invincible armada se perd, c'est parce qu'elle n'avait pas un bon calcul des longitudes. Donc, et c'est la création d'ailleurs du bureau des longitudes, n'est-ce pas, qui va avec l'Observatoire. Donc l'Académie, c'est à la fois un bureau d'études et je dirais une agence de communication pour le pouvoir royal, en exaltant sa munificence, et surtout sous Louis XIV, sa munificence et sa grandeur par la grandeur de ses savants. Et ce modèle est suivi un peu partout. Il y a bien sûr l'Académie de Paris, il y a celle de Saint-Pétersbourg, et en 1772, Marie-Thérèse d'Autriche décide que dans les Pays-Bas autrichiens, il faudra faire une académie. Elle ne va pas durer, elle va durer jusqu'à la Révolution de 1789, mais les honorables savants qui seront là vont faire à la fois le travail de l'Académie des sciences et de l'AIBL, et aussi des sciences morales et politiques. Ils vont faire, notamment en matière de sciences, eh bien, ils vont étudier l'acclimatation du mouton mérinos, le développement des salines de Flandre, bref, exactement la même chose, les études que l'on demande à Paris à l'Académie des sciences.
Alors est-ce que d'emblée, les rapports, parce que là, les choses sont brossées à grands traits, on voit qu'effectivement, le pouvoir politique et l'État devenant plus complexe a besoin, j'imagine, de s'appuyer sur des... Et la société aussi, devenant plus complexe, a besoin de s'appuyer sur des savants, alors qu'auparavant, j'imagine que les rois mérovingiens en avaient moins besoin.
Les rois ont toujours eu des savants autour d'eux. Ils ont toujours eu des médecins pour s'occuper tant bien que mal de leur santé. Ils ont toujours eu des astrologues pour calculer leur avenir jusqu'au XVIIe siècle. Et ils ont eu besoin de ces gens curieux que l'on appelait des ingénieurs. Vous savez, un ingeniator au Moyen-Âge, c'est quelqu'un qui construit des engins de paix et de guerre. En gros, ce sont des ingénieurs militaires, ce sont des architectes et ce sont des gens qui font des... je dirais, de vastes scénographies pour les fêtes publiques. Ce sont des entrepreneurs de fêtes. Regardez le curriculum vitae de Léonard de Vinci, il est un de ceux-là. Mais on ne sait pas pour autant une politique scientifique. Bien sûr, mais je travaille dans la longue durée ici. Et on n'est pas dans une politique scientifique. Une politique scientifique, c'est une politique pour la science et par la science. Pour la science, ça veut dire que l'État investit dans la science. Et une politique par la science, ça veut dire que l'État recourt systématiquement aux savants et à la recherche collective des savants pour arriver à la recherche collective pour réaliser ses grands desseins dans le domaine militaire, dans le domaine économique, dans le domaine démographique, dans le domaine géographique, dans le domaine de l'exploration. Et là, il s'agit d'une utilisation systématique des savants.
Alors, pour et par, est-ce que nous ne sommes pas là au cœur de la contradiction ou de la synergie possible entre
Naturellement, oui, car la question qui se pose et qui se posera toujours aujourd'hui, c'est, dans tous les pays, le rapport entre la recherche que l'on appelle appliquée, on préfère dire maintenant la recherche finalisée, c'est-à-dire qui est dirigée vers un but, et la recherche que l'on appelait autrefois fondamentale et que l'on appelle maintenant la recherche libre, c'est-à-dire qui est laissée à l'initiative des chercheurs. Et à travers l'histoire, qu'il s'agisse de l'histoire de la France ou de l'histoire de la Belgique ou d'autres pays, vous aurez cette polarité au fil du temps entre recherche libre et recherche finalisée.
Alors dans ce vaste balayage historique, après le temps des universités que vous avez évoqué, on arrive quand même à un second grand bouleversement, celui de la révolution industrielle. J'y pense parce que vous parliez de recherche appliquée. Alors là,
oui.
La science trouve des domaines d'application absolument inédits, par leur ampleur en tout cas, dans l'histoire de l'humanité.
Là, il y a encore beaucoup de choses à dire de la Belgique comme microcosme, je dirais deux choses. D'abord, en ce qui concerne le temps des universités, c'est qu'il y a plusieurs styles d'universités. Le style de l'université rétabli après la Révolution, c'est le style classique dans toutes les universités d'Europe, ce qu'on appelle volontiers le modèle humboldtien, du nom d'Alexandre von Humboldt. Les choses changent en Belgique. N'oubliez pas d'abord que la Belgique est entre deux. Elle doit mener une politique de bascule. Elle n'a pas assez de professeurs, donc elle fait un recrutement dosé. On fait venir des gens de France, et des gens remarquables. On fait venir Sainte-Beuve pour enseigner la littérature française. On fait venir Lacordaire, le frère du célèbre prédicateur, mais il était un spécialiste des coléoptères, n'est-ce pas, un ami de Dumont-d'Urville. On fait venir le mathématicien Eugène Catalan, qui était un proscrit, parce qu'il avait refusé de prêter serment à Napoléon III. Mais d'autre part, on fait venir d'Allemagne des juristes, des philologues, qui marqueront notre méthode historique, des physiologistes et des chimistes. Ça, c'est la première période. La deuxième période, c'est après la défaite de Sedan. Toute l'Europe est persuadée que si l'Allemagne a gagné, c'est grâce à la supériorité de son modèle éducatif. Et un peu partout en Europe, comme en Belgique, on va construire des universités sur le modèle allemand.
Et la qualité de ses cartes militaires, non ?
Et la qualité de ses cartes militaires, n'est-ce pas ? Vous savez, par exemple, que les cartes, que la ligne de démarcation entre la Lorraine allemande et la Lorraine française a été tracée par des géologues, de manière que les meilleurs gisements de fer se trouvent du côté allemand. Donc la supériorité de leur science, et donc toutes nos universités vont se calquer jusque dans leur architecture sur le modèle allemand. L'institut où je suis installé est une copie exacte de l'Institut de physiologie de Berlin dirigé par Dubois-Raymond. Donc ça, c'est le deuxième modèle. Et puis, en même temps, c'est la révolution industrielle. Alors là, il y a beaucoup d'ambiguïté sur la révolution industrielle. La révolution industrielle, nous dirons, c'est un changement de système technique. La première révolution industrielle, c'est l'époque où la machine à vapeur remplace la roue à aube, l'énergie hydraulique, et où la fonte produite avec du charbon, avec du coke, remplace la fonte produite au bois. Pour ça, il n'y a pas besoin de science. Les pionniers de la révolution industrielle sont des ouvriers formés sur le tas. C'est des autodidactes. La deuxième révolution industrielle, dans les années 1870, et ça coïncide, n'est-ce pas, avec justement ce modèle allemand, c'est que là, la technique a besoin de science. C'est l'époque de l'électricité, des moteurs à combustion interne, des aciers. Et par conséquent, pour ça, il faut des connaissances fondamentales, des connaissances mathématiques et physiques, chimiques profondes que les universités commencent à dispenser. Et c'est l'entrée des ingénieurs dans le paysage universitaire. En France, vous avez vos grandes écoles d'ingénieurs qui ont un passé prestigieux. Dans les autres pays d'Europe, ce n'est pas comme ça. C'était d'abord des écoles spéciales annexées aux universités. Puis elles deviennent des facultés techniques. Et puis, elles prennent le nom de faculté des sciences appliquées, ce qui illustre une emprise grandissante de la science sur la technique. Et on voit ces ingénieurs universitaires se hisser aux premières places de la société, pénétrer, c'est partout en Europe, dans les conseils d'administration, épouser des filles d'actionnaires et constituer une nouvelle aristocratie.
Donc en Belgique, ça prend quel nom, cette aristocratie ?
Il
y en a qui sont connus en France, je pense.
Oui, bah, c'est-à-dire que nous, on ne distingue pas comme en France.
Solvay, en pain.
On ne distingue pas la vraie et la fausse noblesse. On distingue la noblesse ancienne et la noblesse de Léopold II, qui avait coutume d'ennoblir les capitaines d'industrie. Donc tous les gens qui vont diriger l'industrie à ce moment-là, d'abord, ils vont devoir affronter une tourmente terrible, qui est la guerre de 1914. Il ne faut pas oublier qu'en 1914, l'Allemagne a voulu détruire un concurrent scientifique et industriel. La Belgique était un des premiers pôles industriels du continent. Il ne restait rien. Les hauts fourneaux démantelés et toutes les machines utilisables transportées en Allemagne. Un concurrent scientifique, la bibliothèque de l'université de Louvain, avec des centaines de milliers de volumes incendiés, et donc un pays complètement sinistré. Et c'est de ce monde industriel que va venir le renouveau avec un nouveau modèle qui est le modèle américain.
Alors décrivez-nous ce modèle.
Mais le modèle américain, n'est-ce pas, c'est Rockefeller et Carnegie. L'un fait fortune dans l'acier, Carnegie, l'autre dans le pétrole, Rockefeller. Et ils estiment que c'est de leur devoir moral de financer la recherche avec une idée très, très philanthropique, l'idée que cette science doit être sociale et élitiste. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'homme de génie, où qu'il soit, de quelque origine, de quelque religion, de quelque extraction qu'il soit, et quoi qu'il fasse, que ce soit de la philologie ou de la métallurgie, et il faut lui donner toutes les chances de s'épanouir. D'où de gigantesques fondations privées qui vont essaimer dans toute l'Europe, n'est-ce pas ? Rockefeller va investir en France, dans la recherche médicale. Et donc, nous allons avoir quelques-uns de ces industriels en Belgique, gagnés par le modèle américain, comme par exemple Émile Francqui, qui est un enfant de troupe, élevé à l'armée. Qui va être ce qui va seconder Léopold II dans ses grandes entreprises chinoises et ses grandes entreprises congolaises, et se hisser jusque plus au poste du pays et consacrer une grande partie de sa fortune à créer des bourses d'études par une institution que l'on appelle la Fondation Universitaire. Vous avez Ernest Solvay, dont on parle beaucoup dans l'histoire de la physique. Solvay est un personnage curieux. Solvay est un petit employé d'une usine à gaz, qui découvre, en bricolant, sur les déchets de lavage du gaz, un procédé de fabrication de la soude. Et il crée un empire qui est encore aujourd'hui un des principaux empires industriels du monde. Mais Solvay estime, d'abord il voudrait bien faire de la physique lui-même, mais ce qu'il écrit, c'est plutôt pas bon. Donc il décide de mettre son argent au service de la physique fondamentale. Et ce sont les fameux congrès Solvay où assistent, n'est-ce pas, Langevin, Marie Curie, les plus grands savants qui se réunissent chaque année à Bruxelles et où on discute les questions fondamentales de la nouvelle physique, de la relativité, de la mécanique quantique. Et donc là, nous avons un nouveau modèle, certainement issu du monde industriel, mais pas du tout utilitariste, qui va conduire à la création, 12 ans avant le CNRS, la création du Fonds national de la recherche scientifique.
Ce qui est fascinant dans ce modèle, je trouve, à brûle pourpoint, c'est qu'on est à la fois dans une entreprise qui est très patriotique, puisque le premier personnage dont on a parlé, Francky, est dans les institutions, il travaille au rayonnement de la Belgique, à son expansion, qui en même temps est déjà sur un modèle de réseau, puisqu'on fait venir des savants du monde entier, que les recherches sont mutualisées, partagées, diffusées, échangées. En fait, les gens se déplacent physiquement, mais on est déjà dans une sorte d'allégorie qui peut faire penser à des échanges sur le web aujourd'hui. Surtout, qui résout cet antagonisme qu'on exagère peut-être trop, entre d'une part monde public et monde privé, recherche fondamentale et recherche appliquée, on est dans un bouillonnement qui semble réduire à néant toutes ces oppositions peut-être abstraites.
J'ai parlé du réseau, mais je n'ai pas parlé du nœud du réseau, c'est-à-dire un couple, Albert Ier, n'est-ce pas, et son épouse, la reine Élisabeth. En 1927, Albert Ier prononce dans une usine un discours où il dit sur l'avenir de la recherche, le sort des nations qui négligeront la science et le savant est promis pour la décadence. Et il dit, c'est dans nos laboratoires que se prépare l'avenir du pays. Ce discours déclenche une véritable commotion populaire. On va lancer une souscription publique, on va lancer un timbre. Il y a des souscriptions qui vont depuis le million jusqu'aux quelques francs donnés par de simples gens, et ça va donner le Fonds national de la recherche scientifique. Alors, il faut s'interroger un peu, sans faire de géographie, n'est-ce pas, sur ce personnage et son entourage. Ce sont des gens qui ont une certaine idée de la science, je dirais largement inspirée par l'idéal maçonnique. Ce sont des gens qui rêvent d'une science certainement patriotique, pas nationaliste, mais patriotique, qui mettra le pays dans le premier rang des nations civilisée, d'une science sociale, où, comme dit Francky, qui lui était un fils de pauvre, il faut remédier à la bêtise d'en haut par la qualité des gens d'en bas. Donc chacun doit avoir sa chance. C'est le début de l'ascenseur social par la recherche. Donc une science sociale. Une science utile, mais pas utilitaire. C'est ainsi que les premières réalisations, c'est à la fois le ballon stratosphérique du professeur Picard, le professeur Tournesol dans Tintin, n'est-ce pas ? Et d'autre part, les fouilles d'Apamé, où on va trouver des superbes mosaïques d'Apamé, et les fouilles à l'île de Pâques. Donc vous voyez à la fois recherche fondamentale et appliquée. Donc une recherche sociale, utile, nationale et pacifique. Il y a toute une correspondance entre Albert Ier, Einstein, Marie Curie, Romain Rolland, sur un rêve, n'oubliez pas que nous sommes à l'époque de la Société des Nations et que Albert Ier avait mené la guerre de 1914 sur la paix par la science. Une belle utopie qui sera démentie dans les années qui suivront.
On est dans une époque où il y a quand même un élan, un dynamisme, mais aussi une forme d'utopie qui traverse toute la cité. Il y a une foi dans le progrès qu'on aurait bien peine à retrouver aujourd'hui. Qu'est-ce qui caractérise aussi les rapports ? Parce qu'on a parlé des rapports entre les institutions, le public, le privé, les rapports entre la société elle-même, la façon dont les gens envisagent la science et son évolution aujourd'hui. Que s'est-il passé au-delà des guerres ?
Il y a une différence. Nous sommes à ce moment, pour le moment, n'est-ce pas, nous sommes dans l'entre-deux-guerres. Nous sommes à l'époque où l'on croit encore au progrès par la science et à la paix par la science. C'est l'époque où un historien des sciences, on l'appelle George Sarton, belge réfugié aux États-Unis, dit « History of science is history of mankind ». L'histoire de la science, c'est l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Parce que c'est le seul processus cumulatif. Il est vrai que nous ne pouvons pas dire qu'un Modigliani est plus beau qu'une fresque de Lascaux. Mais nous pouvons dire qu'un étudiant d'aujourd'hui en sait plus qu'un étudiant du siècle de Louis XIV. C'est donc la science, elle est cumulative et elle est universelle, avec cette faiblesse de croire que la science génère ses propres valeurs. Et les gens croient, dans ces milieux intellectuels, c'est aussi un peu l'idéal en France, n'est-ce pas, de gens comme, bien sûr, Marie Curie, comme Langevin, comme de beaucoup d'intellectuels français, de se dire que la science peut générer, surtout dans les milieux rationalistes, que la science peut générer ses propres valeurs et générer sa propre éthique. Ce sont les vieilles idées de Marcellin Berthelot. Il faut dire qu'à Auschwitz et Hiroshima leur infligeront le plus cuisant des démentis.
14-18 aurait déjà pu le faire, non ? C'est facile de le dire avec le recul, mais 14-18, on est quand même déjà dans la guerre
14-18,
industrielle, non ?
14-18, bien sûr. Et il y a des gens que 14-18 a déjà industrialisé la guerre, n'est-ce pas ? Les gaz de combat sont produits de la recherche fondamentale. Les nouveaux aciers pour fabriquer les gros obusiers, on pourrait dire beaucoup là-dessus. Toutes les techniques de...
La guerre aérienne, déjà.
La guerre aérienne, déjà, mais aussi... Les petites curies, c'est-à-dire les ambulances de radiologie que Marie Curie avait pu obtenir pour envoyer sur le front, n'est-ce pas, pour repérer les impacts de balles sur les blessés. avec de l'uranium fourni par la Belgique, du radium fourni par la Belgique et fourni par l'Union minière du Katanga. Vous voyez, tout se tient. Bon, et puis, bien sûr, il y avait des... Mais cet optimisme scientiste va durer à peu près jusqu'au moment de la guerre, où là, on s'apercevra que la science peut devenir perverse et que la science peut devenir folle.
Ça veut dire après-guerre encore, pour poursuivre dans cette remontée vers notre époque, cette remontée progressive. Après-guerre, il me semble, et même du temps de mon enfance, dans les années 70, il me semble que le rapport à la science, même d'un petit garçon, était celui de la fascination, les fusées, l'exploration, et qu'on était quand même encore dans un rapport à la science vu comme des nouvelles possibilités, éventuellement nouvelles épopées, puisque je parlais d'un petit garçon, oui. Et qu'aujourd'hui, le rapport à la science, je vois celui de mes enfants, même celui qu'ils apprennent à l'école, est plutôt placé sous le signe, sinon de la menace, au moins du risque. Le cours de sciences SVT, sciences de la vie et de la Terre, c'est essentiellement avec l'ombre portée du risque du réchauffement climatique, des dangers associés au développement industriel, l'homme vu comme celui qui peut faire dérailler la création à travers justement la science et l'industrie. C'est un fameux glissement.
J'ai encore été élevé dans ce culte de la science avec en corollaire, n'est-ce pas, le culte de l'inventeur, les belles vies d'inventeurs que nous lisions. Le culte du savant, quand j'étais petit, on me demandait « qu'est-ce que tu veux devenir plus tard ?» Et je disais « je veux devenir savant ». Alors, il y avait deux modèles pour moi. Il y avait Tournesol et il y avait Aristide Clérambard, l'archéologue, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et compagnon de Bob Morane. Mais je le suis devenu. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu ça. Mais il y avait, à côté de ça, depuis la bombe atomique, un sentiment de méfiance qui allait croissant. D'abord au sein des savants eux-mêmes, au sein de ceux qui avaient participé au projet Manhattan, Oppenheimer en est un bel exemple, mais j'en ai connu d'autres et j'en ai fréquenté personnellement, un mouvement de méfiance, de l'idée que la science ne pouvait plus se réguler elle-même et qu'elle pouvait devenir une menace. Et à mesure que le temps a passé, que les dangers se sont aggravés, que de nouveaux dangers sont apparus, d'abord c'était la guerre bactériologique, et puis après, c'était les problèmes climatiques et les problèmes environnementaux. Une conscience s'est fait jour dans le public, en Belgique comme dans toute l'Europe, qui est une conscience qui est aujourd'hui en train de s'exacerber et qui est paradoxale, puisque les gouvernements d'abord ont toujours de plus en plus besoin de science. Nous sommes à l'époque de ce qu'on appelle la « big science », c'est-à-dire de la science qui mobilise d'énormes moyens et des collectivités de chercheurs sur des grands projets. Et d'une part, l'État recourt toujours plus à la science. Et quant au public, il y a une attitude tout à fait paradoxale, c'est-à-dire qu'on accuse la science de tous les maux et on attend d'elle tous les remèdes. Donc, il y a l'attitude de rejet fondamental, mais elle n'est pas très fréquente. Le public a vis-à-vis de la science une, ou plutôt de ses applications. Car on ne fait pas toujours la différence entre la science, qui est la recherche de la vérité dans la nature, et son application dans les technologies et dans l'industrie. Mais il y a dans le public une attitude d'amour-haine vis-à-vis de la science et de ses applications, et qui, il faut le dire, repose bien souvent sur de l'ignorance qui est complaisamment accréditée par certains et renforcée par certains.
Non, cela n'est pas sans conséquence. Je crois savoir qu'en France notamment, mais c'est certainement le cas en Belgique aussi, enfin, j'imagine, il y a une forme de désaffection pour les carrières scientifiques, une difficulté à recruter de nouveaux chercheurs. Or, comme du temps d'Albert Ier, on est par ailleurs parfaitement conscient que d'une part, le rayonnement, l'autonomie et la place qui sera celle de la France ou de la Belgique ou de l'Europe dans le monde sera dépendante de sa capacité eh bien, à accumuler et à mettre en œuvre du savoir, et notamment dans les sciences dures, et dans le même temps aussi résoudre des problèmes qui se posent à l'humanité entière. Comment peut-on tenter de démêler tout cela et de sortir par le haut de cette forme de crise qui est aussi une crise morale probablement ?
Il y a certainement au départ une crise morale. Et puis, ce dont nous devons être bien conscients, c'est que les conditions du travail scientifique ont changé considérablement. D'abord, on ne parle plus de savants, mais de chercheurs, ce qui est beaucoup plus modeste. Ensuite, le chercheur ne travaille plus seul. Il travaille dans des équipes. Ensuite, la science est devenue... parce que nous parlions toujours de science, la science est devenue de plus en plus solidaire de ses applications. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée technologique majeure sans recherche fondamentale à la base, et tout progrès dans la recherche scientifique libre finira toujours par trouver une application. Donc on arrive à quelque chose que l'on appelle la technoscience. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où vous êtes dans la technoscience et dans le domaine de l'application, il est clair que vous êtes dans le domaine économique et que nous vivons dans un certain système que l'on appelle, d'une manière ou d'une autre, pour faire court, n'est-ce pas, et sans caricature, système capitaliste, c'est-à-dire qu'il y a un certain partenariat avec le privé. Et ici, nous avons un premier risque. Le partenariat avec le privé ne va pas sans risque, parce qu'on ne cherche pas la même chose. Le chercheur cherche la vérité. Le privé cherche le profit. Et parfois, les deux sont contradictoires. N'est-ce pas ? Il y a beaucoup d'études sur l'amiante. Il y a une très belle étude qui vient de paraître par un chercheur américain sur les cigarettiers et sur les dangers du tabac. Les savants se laissent parfois tenter à faire des expertises un peu sollicitées ou un peu complaisantes. Bien, c'est le premier danger. Mais le danger est plus grave. C'est que si le monde industriel contrôle l'aval de la science, c'est-à-dire ses applications, ce qui est à tout prendre normal, il pourrait entreprendre, puisque c'est celui qui paye qui décide, de financer aussi l'amont, c'est-à-dire de sélectionner les recherches qui en valent la peine et qui valent la peine d'être financées et les recherches qui n'en valent pas la peine. Et même lorsqu'il s'agit de sciences humaines, prétendre exercer un droit de contrôle sur le travail du chercheur lui-même. Et là, je peux citer un témoignage. J'ai écrit un livre, n'est-ce pas, sur l'histoire d'une société métallurgique qui fait partie maintenant du groupe Arcelor, maintenant ArcelorMittal. Et ce livre a été censuré par ArcelorMittal, 48 pages sur 224. Donc la liberté créatrice du chercheur est devient un peu limitée, n'est-ce pas ? On ne fait plus ce que l'on veut. J'ajouterai que le système actuel tend à précariser le chercheur et à enlever à la recherche scientifique ce qui fait son essentiel, c'est-à-dire la durée. En France, vous avez, en créant le CNRS, créé des carrières de longue durée qui permettaient à quelqu'un de faire une œuvre. Or, une œuvre ne se fait pas en 3 ans. Et l'on voit actuellement, un peu partout en Europe, des projets à court terme où l'on attend des résultats après 3 ou 4 ans, se succéder et donc faire vivre, empêcher d'abord la réalisation d'une véritable œuvre et faire vivre les chercheurs dans une précarité généralisée. Ni en Belgique ni ailleurs, on ne fera beaucoup progresser la science en insécurisant ceux qui la pratiquent, n'est-ce pas ? Et ceci est un très grand danger. Le premier, c'est que le partenariat public-privé doit être, non pas refusé, mais gérer avec précaution, avec un principe de précaution qui garantit la liberté du chercheur. Le deuxième, c'est qu'il faut travailler dans la durée. Et je suis terrifié de voir que maintenant il n'y a plus que des projets à court terme et que mes chercheurs, je dois passer mon temps à gratter, à chasser les contrats pour qu'ils n'aillent pas au chômage. Et là, je voudrais dire que c'est le privilège de nos académies de pouvoir travailler dans la durée, n'est-ce pas ? La durée. Il reste aux académies et il faudrait leur rendre leur rôle d'antan. Il reste le rôle de conseil auprès de conseils libres et indépendants, auprès du pouvoir politique. Et c'est ce que fait notre Académie des sciences sur les grandes questions.
Rendre des avis.
Et deuxièmement, entre lancer des projets qui sont dans la longue durée. Quand vous pensez que les académies allemandes viennent de lancer un projet de 13 ans sur la tradition grecque, arabe et latine de Ptolémée. Recherche purement fondamentale, mais qui dure 13 ans avec une vingtaine de chercheurs qui sont engagés.
J'ignorais que c'était encore possible à l'étranger.
C'est encore possible. Ça pourrait être possible partout si le politique était conscient du rôle historique des académies qui sont de maintenir la liberté de chercher dans la durée.
Vous parlez de ce court-termisme qui frappe le monde de la recherche scientifique, mais est-ce que de façon plus globale, la société entière est devenue un petit peu trépidante et court-termiste ? C'est le cas des chercheurs qui doivent donc, si j'ai bien compris, courir après des dotations sans cesse à renouveler. Bon, c'est le cas pour une part dans ce monde public, mais qui est soumis à un monde politique instable, où il y a des élections quasiment tous les ans en France, je pense en Belgique aussi, vu le millefeuille que c'est.
Oui, on en instabilité, on est champion.
Mais aussi du monde privé, lorsque l'on parle avec des entrepreneurs, c'est la même chose. Ils doivent rendre compte à leur conseil d'administration,
absolument.
Même pas tous les ans, tous les trimestres, et parfois tous les mois.
Absolument.
Pour avoir des résultats,
absolument.
Tous les mois. Et si ça baisse, ils sautent.
Et ce système présente encore, à mon avis, des dangers plus grands pour la société. Parce que nous assistons, j'ai parlé de technosciences, nous assistons à une troisième ou quatrième révolution industrielle. Il est évident qu'à chaque révolution industrielle, ont correspondu des changements dans la société. Et ici, nous avons une révolution industrielle qui est entièrement fondée sur la connaissance. La connaissance, elle n'est pas partagée. Donc, nous nous acheminons par cette société technoscientifique fondée sur la recherche de pointe vers une société duale, où il y a d'une part une élite sans cesse précarisée, mais qui reste une élite et qui a le pouvoir, l'argent, et d'autre part, tous ceux qu'on laisse sur le côté, avec des petits boulots, tondeurs de gazon, promeneurs de chiens, des boulots sans qualification spéciale, qui ne nécessitent pas un doctorat en physique. Mais ce sont des gens que nous abandonnons alors à tous les totalitarismes et à tous les intégrismes.
Alors justement, sur une antenne, je n'ose pas dire concurrente, complémentaire, ce matin, nous parlons lors d'une journée où sur cette antenne était consacrée, la journée entière était consacrée au numérique. Et l'une des personnes présentes sur le plateau avait eu le front d'affirmer qu'il n'était pas nécessaire d'apprendre aux gens ce qu'est un algorithme, car ce n'était pas nécessaire pour utiliser son ordinateur et surfer sur le web. Est-ce que ça ne résume pas la situation actuelle ?
C'est parfaitement vrai, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'ordinateur est une boîte noire, que les gens traitent souvent avec une sorte d'anthropomorphisme. Qu'est-ce qui me fait encore celui-là ? Mais avec une sorte d'anthropomorphisme, une sorte de fétichisme. Et c'est purement une boîte noire où on est un acteur passif. On sait s'en servir. On peut aller sur le net où le meilleur côtoie le pire. On n'a pas les moyens de trier l'information. Donc on peut avaler à peu près n'importe quoi. Et donc ce qui manque, je ne dis pas qu'il est nécessaire de connaître les algorithmes, mais il faudrait au moins savoir comment ça marche, comprendre ce que c'est, comment marche un ordinateur dans ses grandes lignes, et d'où vient avec ses qualités, ses défauts et ses risques, l'information qui vous est fournie. Bref, ce qui nous fait le plus défaut, c'est une éducation à l'esprit scientifique, qui n'est finalement qu'une forme d'esprit critique.
Est-ce que finalement, ce ne serait pas aussi, d'ailleurs, une façon de réconcilier la société et les sciences ? C'est-à-dire que je pense que dans les décennies passées, pas besoin de remonter si loin, toute personne utilisant une voiture avait peu ou prou conscience de la façon dont elle fonctionnait. Aujourd'hui, la plupart de nos objets usuels nous échappent totalement. La fracture est immense.
Immense. De toute façon, nous avons tous des voitures. Les anciennes voitures, on pouvait soit les réparer soi-même, soit les confier au garagiste du coin. Maintenant, comme les pièces sont des boîtes noires, bourrées d'électronique, on les renvoie à l'usine. Donc, il y a là des savoirs qui se perdent. En réalité, il ne faut pas faire le nostalgique, mais il faut réclamer impérativement, la recréation dans le public d'une culture scientifique qui lui permettra d'abord de comprendre ce qu'est la science, de dissiper toutes sortes de préventions, toutes sortes de préjugés, toutes sortes d'illusions, ça c'est la première chose, de savoir ce que la science peut et ce que la science ne peut pas, de savoir comment elle fonctionne, et, puisque chacun d'entre nous a le droit de vote, de pouvoir prendre en conscience des décisions quant aux grands choix technologiques de la planète. Mais sans culture scientifique, vous n'y arriverez pas. Il y a une des choses que j'aime à citer, n'est-ce pas ? C'est qu'une des principales préoccupations de Langevin et des scientifiques qui entouraient le Front populaire a été de créer le Palais de la Découverte. Et le Palais de la Découverte avait typiquement pour but de rendre la science accessible aux plus humbles des citoyens. Et là, c'est probablement ce qui nous, la recréation d'une culture scientifique partagée, que ce soit en Belgique où la fracture est plus grave qu'ailleurs, n'est-ce pas ? Où le panorama que je vous ai décrit est beaucoup plus caricatural. En France, vous avez un certain nombre de garde-fous qui n'existent pas chez nous. Bon, chez nous, nous sommes pays du libéralisme sauvage. Mais la seule manière, je crois, pour permettre aux citoyens de reprendre leur place dans la science, et la clé de toute politique scientifique, c'est à savoir partager avec tous les citoyens, ce qui est une tâche énorme d'éducation, mais qui contribuerait probablement à réduire pas seulement la fracture sociale, mais probablement aussi à réduire les fractures communautaristes.
En offrant un nouvel élan partagé.
Un nouvel élan partagé, ce que Madame Levi-Montalcini, qui a été prix Nobel de biologie, n'est-ce pas, disait, appelait la science citoyenne. C'est un beau mot.
Oui, c'est un très beau mot. Lorsque j'évoquais le rapport à la science, qui était celui des petits garçons lorsque j'étais enfant, il y avait aussi le sentiment que la science offrait de nouveaux horizons et qui était partagé par l'ensemble. C'est-à-dire, au-delà de la diffusion, par l'éducation, de la culture scientifique, il y avait aussi une culture populaire qui valorisait la science et le sentiment que des sociétés, elles-mêmes ou avec d'autres, pouvaient se rassembler pour des grandes épopées qui concernaient l'humanité entière.
Absolument.
Je pense que la Terre entière a vibré en voyant le premier homme mettre le pied sur la Lune. Cette fois, c'est une légitime fierté des Américains, c'était dans une compétition géopolitique, on le sait, avec l'URSS. Néanmoins, l'ensemble de l'humanité a certainement vibré. Aujourd'hui, quels sont ces horizons qu'on pourrait mettre en avant pour recréer cet élan, faire de la science un objet dont on s'empare pour se lancer dans une forme d'aventure partagée, tout simplement.
Je pense que l'aventure partagée, c'est la réponse à tous les défis qui nous attendent. Le défi climatique, le défi de la population, le défi des migrations, le défi de... Tous les défis relatifs aux nouvelles maladies émergentes, les chantiers ne manquent pas. Et dans tous les cas, on a besoin de science. Mais je voudrais quand même qu'on dise une chose. On a besoin non seulement, face à tous les grands défis qui attendent l'humanité, nous n'avons pas seulement besoin de science dure, on n'a pas seulement besoin de faire des équations. On a besoin de faire, on a besoin aussi des sciences humaines, de ce que l'on appelait autrefois les humanités. Elles ont un rôle. Et l'année prochaine, l'UNESCO, le Conseil international de la philosophie et des sciences humaines, vont organiser chez moi, à Liège, la Conférence mondiale des humanités. Et le sous-titre, ça veut dire à peu près 1800 personnes, c'est organisé autour des grands défis de notre temps. Et la question n'est pas de dire que les humanités sont utiles. La question, c'est de savoir quelle réponse, justement, à côté des sciences dures, ces sciences de l'homme, l'histoire, la science des langues, la science des littératures, l'histoire de l'art, peuvent apporter. Et je crois que la collaboration des deux, la culture scientifique, c'est pas seulement les sciences dures, hein. La culture scientifique, c'est aussi, comme au siècle des Lumières, la sainte alliance entre la science dure et les sciences humaines.
Écoutez, je pense que c'est une excellente conclusion qui ravira les auditeurs de notre radio qui s'intéressent bien sûr aux travaux des cinq académies et pas seulement à celles des sciences et qui ont pu constater au fil des différentes émissions combien les hommes de science étaient aussi des hommes de culture, comme elles se préoccupaient souvent de philosophie et combien également les chercheurs passionnés comme vous de sciences humaines et d'histoire avaient compris que tout cela forme un tout qui prend la grande aventure du savoir humain et qui bien sûr continuera quels que soient les allées institutionnelles qui frappent bien sûr la Belgique mais aussi la France et pour le monde entier. Mais vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, une phrase de Bossuet dans le traité de la connaissance de Dieu et de soi-même. Il dit que depuis des millénaires, l'esprit humain cherche et n'arrêtera jamais de chercher et que seule la paresse pourra mettre un terme à ses recherches et à ses inventions.
Ce qui nous ramène au titre de votre ouvrage dont je rappelle les références. Tant qu'il y aura des chercheurs, si je comprends bien, il y en aura donc toujours. Tant qu'il y aura des chercheurs, de Robert Halleux. C'est donc disponible aux éditions Luc Pire. Et bien sûr,
les et diffusé en France.
Et diffusé en France. Et donc, les références figureront également sur le site internet de Canal Académie. Merci beaucoup, Robert Halleux, pour cet exposé historique et prospectif également.
Merci. Thank you.